C'est agréable, ça au moins, c'est bien.
Vous voyez le bon truc, ça marche.
Oui. Bon, nous, c'est principalement notre chef.
Ouais, c'est le petit chef. Un petit peu à droite.
C'est 15.
Ouais,
elle est 13, hein. J'ai encore 2 minutes. Hein,
je vais faire l'avance maintenant.
Non, mais c'est
non,
pas
non, mais bah. Voilà. Oui.
Non, c'est des souvenirs d'enfance où des fois, on arrive à l'heure, on nous convainc d'être bon élève.
C'est le retour de vacances et les bonnes résolutions.
Oui. Mais comme on arrive de loin, on fait 4 km, on arrive à voler. Avec le cartable, on marche.
Attends, je vais.
Tiens, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le voir aussi avec toutes les sciences. Vous avez beaucoup de relations avec les sciences. C'était très bien.
Mais alors.
Bon, eh ben, je vais commencer avec une petite minute d'avance. L'idée c'était de terminer, j'ai plus grand chose à faire à partir de Marianne North. Et puis de commencer un gros morceau, un Bert Morisot. Donc,
ah oui, Bert Morisot.
Chaque fois, j'essaye de trouver des angles, ça c'est compliqué, mais. Et puis de toute façon, on va piétiner dans cette période, parce qu'on va avoir Morisot, Degas, Gauguin, etc. Donc tout ça, c'est contemporain. Comme je l'ai dit, là, on est dans. C'est toute la chronologie, parce qu'on explore plusieurs branches, c'est le cas de le dire, avec. D'une même période. Et alors, vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous avais montré sur Marianne North. Et j'en étais arrivé à la notion, puisqu'on peut dire qu'elle n'a pas inventé, mais elle a quand même conçu, c'est elle qui a conçu l'accrochage de tous ces tableaux, hein, ces 837 tableaux, plus les plaques de Meurizier dans la à Kew Garden à Londres, hein, pour rappeler, parce que. Peut-être ça n'était pas là. Et voilà, Marianne North, donc voilà l'accrochage de ces tableaux, conçus par elle, y compris l'architecture, hein, donc ça c'est important à savoir, comme une totalité. Et si vous voulez, avant que Monet fasse ses séries de cathédrales, etc., donc qu'on soit la série comme un tout, c'est-à-dire une peinture, c'est plus ou moins une image, ou un tableau au mur, ou même une fresque, c'est, ça peut être. Une œuvre totale qui est constituée de plusieurs pièces, hein, et qui sont toutes complémentaires, qui se répondent les unes aux autres, etc. Cette idée d'arrangement comme ça, et de pièces dédiées entièrement à ça, c'est important parce que ça suggère aussi le parcours même du spectateur, hein, le déplacement, l'idée qu'on ne peut pas saisir la totalité. D'ailleurs, on ne peut pas représenter la totalité de son œuvre par la photographie. Ça aussi, c'est important, c'est une sorte de retour à une certaine réalité physique de la peinture, puisque ce n'est pas une image qu'on peut reproduire. L'œuvre ici, c'est un espace dans lequel on va se déplacer, même s'il est constitué que de peintures bidimensionnelles, planes, etc. Donc si vous voulez, c'est conceptuellement, au niveau des arts plastiques, elle invente déjà presque le concept d'installation, ce qui va être beaucoup plus tard, hein, au XXe siècle, quelque chose qui va se répandre. Alors, ceci dit, ce qui existait, c'est pour ça que j'en voulais, ce qui existait quand même, c'était les cabinets de curiosité, ça je vous en avais parlé la dernière fois, et qui étaient soit des collections avec une thématique, soit effectivement les curiosités, avant l'existence des musées, rappelez-vous ça, je crois que vous l'avez dit, les musées datent du 19e siècle. Ça n'existe pas. Ce sont des collections personnelles, collections royales, auxquelles le public n'a pas accès, ou sauf exception. Il peut y avoir les salons. Exceptionnellement, les gens viennent dans des salons voir les expositions, mais la collection, alors, il y avait plusieurs types de collections. Hein. Il y avait donc les collections de peinture, mais il pouvait y avoir les collections de curiosités, avec des intérêts parfois uniquement de la diversité du monde, comme on peut le voir ici, dans une peinture de Franz Franken, du XVIIe, on voit des peintures, mais on voit aussi des coutillages, des sculptures, des miniatures, des raretés, des gravures, des objets naturels ou des objets artificiels, hein, qui... alors, c'est intéressant d'un point de vue aussi conceptuel, c'est l'idée que la nature, enfin, l'art se rapproche de la nature, puisqu'on peut les rassembler aussi. Des objets trouvés ou des objets fabriqués par les humains, devenant quelque part des curiosités. Donc là, on le voit dans ces tableaux. Alors, ce qui est drôle, ce sont des tableaux qui représentent des cabinets de curiosité. Alors, il y en aura beaucoup, ça sera même un genre, comme on le voit ici, toujours de Franz Franken, ou ici, Van Hache, David Tenier, au XVIIe siècle. On voit, c'est juste, effectivement, avant que, on va dire, une science un petit peu dure commence à arriver. Et vous voyez que, dans tous ces tableaux-là, en haut, ce sont des cabinets de curiosité, en bas, ce sont des collections de peinture. Mais la frontière est ténue, entre ces deux principes. Ce qu'on peut retenir, c'est le principe d'accrochage, c'est la quantité. C'est qu'effectivement, l'œil est ici en permanence sollicité, effectivement, et s'égare, va dans tous les sens, etc. Et il ne peut jamais s'arrêter. Et on peut dire que Marianne Loss a repris un petit peu cette idée, mais pour sa propre œuvre unique. Là, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Alors, chez Marianne Loss, la curiosité vient du fait qu'elle-même est allée chercher la curiosité en voyageant. Donc, par délégation, elle ramène en Angleterre des curiosités botaniques, hein, ou des curiosités de paysages, de cieux, de plantes, etc. Elle les ramène. Donc, quelque part, elle est toujours quand même dans cette espèce de logique de la diversité, qu'il s'agit de réunir, parce qu'il s'agit effectivement d'assembler dans un même lieu des objets, des peintures qui se répondent les uns les autres. Alors évidemment, ça fait drôle, puisque c'est mon fond d'écran bien avant que ça soit devenu la pièce majeure de l'exposition à Landerneau là, sur les cabinets de curiosité, puisque là c'est une peinture en trompe-l'œil, hein. Les panneaux que vous voyez ouverts ne sont pas, en fait, ce ne sont pas des vrais panneaux, c'est une peinture de panneaux ouverts, hein, qui représente, on peut dire, là, la quintessence du cabinet de curiosité, cette fois-ci en miniature. Alors, cette espèce de concentration aussi, on la retrouve totalement là. Là, il y a en plus l'idée du complet et de la virtuosité. Hein, si on zoome, on se rend compte aussi qu'il s'agit non seulement pour le peintre de concevoir quelque chose de complexe, mais y compris de maîtriser à peu près tous les états. Toutes les étapes de la peinture, la transparence, le volume, le relief, la perspective, les vitres cassées, justement, le verre cassé, les brillances, les modelés, le trompe-l'œil avec la pression qui est sortir du cadre, le faux bois, l'ombre portée, l'ombre propre, vous avez à peu près, et tous les types de les camés, la peinture de la peinture. C'est, et là, j'ai la chance d'avoir une définition. Le miroir, on avait vu ça quand on avait travaillé sur Van Eyck, etc. Dans lequel vous avez alors l'image dans l'image, la lumière extérieure, la lumière simulée, etc. Plus les transparences. Évidemment, le crâne de mort, on est pas loin de la vanité, puisqu'on est dans le trompe-l'œil, etc., etc. Alors là, cette œuvre de Reims, c'est un chef-d'œuvre.
C'est quelle taille, ça?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est un format relativement moyen. Ça, c'est pas. C'est une œuvre d'intérieur, donc ça va faire, j'imagine, 1m50 maximum. Donc, ouais. Je ne l'ai pas vu à Landerneau, parce que j'ai pas eu le temps d'y aller. Et donc voilà. Alors, Reims a fait d'autres œuvres. Alors, l'idée du trompe-l'œil, bon, je m'écarte un petit peu. C'est pour vous montrer, parce que Reims, c'est un artiste qui n'était connu que par cette peinture-là. J'ai fini par trouver certaines de ses œuvres, hein, qui sont aussi dans lesquelles on trouve toujours le même esprit, de rassembler des images de nature et des objets de nature différentes. Donc, quelque part, il y a toujours cette idée un petit peu de relier, hein, y compris tous les états de la peinture, depuis le dessin, le papier, le croquis, jusqu'à la peinture, la gravure, le miroir, le cadre dans le cadre, donc c'est presque une peinture complète, le bois imité, mais souvent ce sont des peintures qui sont sur du bois, donc vous avez un jeu aussi sur les matériaux, Donc la perspective avec le trompe-l'œil de la plaque, comme ça, et en même temps la grande conscience de la planéité de la surface. Ça c'est important, parce qu'on verra ça avec justement Bertrand Rizzo et les impressionnistes. Et voilà d'autres de ses œuvres. Je m'écarte un peu de Marianne North, mais si vous voulez, on est quand même... Il y a la dimension de curiosité, mais il y a aussi une dimension conceptuelle avec la palette, la peinture comme une fenêtre avec un rideau qui se dévoile, le trompe-l'œil, le papier qui s'enroule avec lequel il y a les études et les dessins, les aquarelles, etc. etc. Et puis évidemment, les états de la lumière. Et puis la planéité, la surface. Au bout du compte, comme je disais, l'idée que la peinture est tantôt une fenêtre, tantôt une surface, hein, tantôt on est dans la profondeur, tantôt on est dans la réalité immédiate et tangible, et bien là, avec Dominique Rums, on est en plein dans une conscience de ce qui se passe en peinture. Alors d'autres collections, d'autres peintures de collection, hein, au XVIIIe, alors ceci dit, l'idée était quand même dans les collections royales, c'était quand même l'accumulation et la quantité. Hein. On a énormément évolué maintenant.
On avait les moyens peut-être.
Oui, et puis c'est assez drôle de penser que la peinture, elle était vue comme ça. Hein. Elle était vue dans les collections. Il fallait dans les salons, le grand enjeu, c'était d'avoir une bonne place lors de l'accrochage. Pour les salons,
oui.
Comme ça. Et c'est que celui-là aussi, c'était furieux, si c'était en haut, si c'était un autre, si c'était dans un coin, etc. Donc on pouvait être sélectionné dans le salon, mais la place qu'on avait dans l'accrochage était aussi cruciale. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Parce maintenant, c'est plutôt le contraire. On met une œuvre et on consacre une seule avec des projecteurs, etc. Donc,
minimaliste.
Ceci dit, ce type de peinture du 18e sont très intéressants pour les historiens d'art parce qu'on voit, on repère certaines peintures, on voit dans quelle collection elles étaient. Ça aussi. Là, vous avez par exemple ici, je crois que c'est un Lorenzo Lotto, ici, et si on regarde, les spécialistes peuvent regarder et repérer des peintures, se dire tiens, elles étaient dans quelle collection. Alors là, on voit des collections thématiques avec les herménistes, etc. Les paysages et les vues de Venise. Donc, on voit aussi qu'il peut y avoir quand même une certaine unité dans les collections. Et c'est quand même assez remarquable. Alors, par contre, les artistes, souvent, là, je n'ai pas trouvé les noms, forcément. Hein, ce n'est pas toujours facile de trouver les noms de ces artistes-là. Alors, le cabinet de curiosité à l'art en Venise. Oh là 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 là, je suis désolé. Je vais retrouver ça vite. Alors, où est-ce qu'il est passé, Marianne ? Ici. Ah voilà, il manquait celle-ci avant. Alors voilà, on est encore. Et on voit la grande galerie du Louvre, vous voyez le radeau damé du Zoxé. C'est un genre hein, de peinture qui s'est quand même développé. Et ce qui est intéressant ici, dans cette peinture dont je ne connais pas l'artiste, vous avez ici un conservateur qui montre un muséum d'histoire naturelle sur lequel vous avez des peintures d'oiseaux. Donc on voit que le passage de l'une à l'autre, hein, de cabinet de curiosité jusqu'à la collection de peinture, et puis là, vous avez effectivement le musée d'histoire naturelle. Alors, ça se comprend aussi, puisque c'est avant la photographie, avant les films. Donc, si vous voulez, l'accès au savoir, y compris scientifique, passe beaucoup par l'image, même encore maintenant. Hein, d'ailleurs, la représentation en science est absolument essentielle. Donc, si vous voulez, le regard reste un outil de connaissance. Hein, et c'est en ce sens que, aussi, le travail de Marianne North, il est vraiment entre les deux. Et puis là, l'idée du dévoilement de la nature, des secrets de la nature dans la peinture est quelque chose d'assez subtil. Alors, le cabinet de curiosité, c'est quelque chose qui va être assez abandonné, qui va être repris par André Breton chez les surréalistes, parce que justement, au XIXe siècle, on va avoir un cloisonnement dans les savoirs. D'un côté, la science, de l'autre, les beaux-arts, ensuite, l'art décoratif, l'illustration scientifique, la photographie, vous avez un cloisonnement, y compris une hiérarchie. Un des principes d'André Breton, au contraire, c'est que l'art va naître de la rencontre. La rencontre qui va déclencher une étincelle esthétique. La rencontre même faite par le hasard. Et donc, André Breton va rethéoriser le cabinet de curiosité avec cette idée justement de raccourci entre des objets parfois naturels dont il sera lui-même un vrai chasseur-cueilleur. Hein, on le voit parfois ramasser des galets, les observer dans la nature. Et en même temps, des œuvres artificielles hein, faites par les humains, mais quelle que soit la culture. Ça peut être des masques inuits, des masques africains, des œuvres de ses amis surréalistes ou cubistes, ou peu importe, hein, quelle que soit l'histoire, avec un rapprochement. Et ça a été installé à Beaubourg récemment, parce que c'est qu'une partie de son appartement qui devait être dispersée. Et c'est la fille d'André Breton qui a insisté pour que ça ne soit pas entièrement dispersé et qu'il y ait une partie qui soit conçue comme une œuvre. Alors que c'était le bureau, c'était chez André Breton, je crois que j'ai une photo. Chez André Breton, quand il y a des photos de André Breton chez lui, c'était effectivement, toutes les pièces étaient de cet ordre-là. Et donc il y a une sorte de reconstitution, comme une œuvre d'art, de ce bureau d'André Breton que l'on peut voir à Beaubourg. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais normalement. Et vous, alors quand vous voyez, vous avez compris ben, l'idée du secret, l'idée des tiroirs, l'idée des boîtes, les rapprochements entre des objets naturels, des éléments naturels, et puis des objets artificiels de toutes les cultures, dimension universelle. Hein, André Breton était un spécialiste aussi du mythe, hein, comme le mythe étant effectivement un principe universel de l'esprit hein, et de l'humanité, et cesser toute sa vie de faire des rapprochements justement entre toutes les cultures sans les hiérarchiser. Et donc on voit bien ici hein, un de ces principes dans son installation. Alors l'idée du cabinet de curiosité comme ça, de la quantité hein, dans laquelle on ne peut pas tout saisir, on plonge, on fait des rapprochements, on va errer. Le terme un peu à la mode maintenant de sérendipité, hein, sérendipité dans lequel on va chercher, on va trouver des trucs par hasard, on va les raccrocher, quelque chose qui échappe aussi à la rationalité, c'est typique du surréalisme. Donc cette idée d'être un peu dépassé et de ne pas maîtriser forcément ce que l'on regarde. Alors, vous avez des. Alors ça, en bas, ce sont des cabinets de curiosité qui ont été reconstitués à Landerneau, donc avec soit des animaux étranges, ici des collections de sabliers, des pierres, des pierres curieuses qui font des paysages. Et au-dessus, ça c'est juste pour vous montrer quelques pistes, c'est un photographe contemporain qui s'appelle Andreas Gursky, qui, ce sont des photographies, et le titre c'est Amazon. Alors,
ça n'a rien à voir.
Si, c'est lui fait des montages, hein, c'est des montages qu'on ne réalise pas du tout. Oui, le montage. Des montages assez hallucinants, justement, bah, sur la quantité, cette fois-ci. On essaie de transformer en qualité, et avec ici les emballages. Alors là, c'était juste pour vous montrer des pistes, un petit peu, pour voir en quoi Marianne North avait pu, en même temps, théoriser et initier, peut-être, des pratiques artistiques qui résonnent encore. C'est très court, on pourrait faire des chapitres entiers sur les cabinets de curiosité. Et Marianne North, donc, je vous dis, intéressante à redécouvrir. Ça peut être un objectif quand on va à Londres. Moi, j'allais à Londres assez souvent, il fut un temps, mais je ne savais même pas que ça existait. Donc, je suis allé à Kew, je ne savais même pas que ça existait. Je n'avais pas vu aucun dépliant, aucune publicité. Donc, j'ai raté ça. Donc, je fais donc une pause. Alors, Marianne North, alors il y a un lien quand même qui va être intéressant entre Marianne North et puis Berthe Morisot. C'est un peu plus bête, hein, c'est un rapport aussi à la nature. Et on va voir là, et puis aussi des femmes oubliées en tant qu'artistes. Je crois que quand on lit le Wikipédia d'ailleurs sur Berthe Morisot, eh bien, hein, le Wikipédia au niveau de l'art, souvent c'est pas mal. Hein, ils font des critiques, mais franchement, ils font des bonnes pistes. Berthe Morisot a été redécouverte quasiment aux États-Unis en 1982, donc c'est récent. C'est récent, et bon, là il y a une rétrospective, il y en a une, voilà, 4 ou 5 ans, 6, en 2012, je crois, à Marbre-Tente. Alors je crois qu'en France il y avait quand même eu quelque chose en 1961, donc elle n'était pas totalement ignorée, mais si vous voulez, c'était quand même vu comme une sorte de curiosité, vue comme une muse de Manet, essentiellement. Souvent, d'ailleurs, vous avez les femmes artistes, on dit que ce sont les muses, on oublie que souvent elles sont artistes tout autant qu'eux. Et puis l'idée qu'elles sont inspiratrices, mais elles ne sont pas créatrices. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui a frappé très clairement Berthe Morisot dans son histoire. Et actuellement, on est en train progressivement de reconstituer son œuvre, le corpus de son travail. Moi, j'ai redécouvert des travaux récemment, que je ne connaissais pas d'elle. Je vais vous les montrer, mais je ne connaissais pas. Bien que ça fait des années maintenant que je m'intéresse à cet artiste. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors,
il y a un livre actuellement.
Ah bah oui, parce que j'ai l'expo, donc il y a eu plein de choses, hein, des éditions, etc. Alors, sauf que j'oublie ce principe, je pars d'une œuvre, pas forcément chronologique, puis après je développe autour de cette œuvre. J'ai choisi celle-ci, qui n'est pas du tout une œuvre de jeunesse de Berthe Morisot, hein, puisque elle est née à peu près vers 39, quoi, 41, je crois, donc elle a ici 43 ans. Elle meurt à 56 ans, je crois, avant 1900. Et par contre, je l'ai trouvée très intéressante et très emblématique de son travail. Donc je vais développer un petit peu autour de ce style-là. On peut dire qu'ici, on a vraiment le style de Berthe Morisot, très affirmé. Mais ensuite, on va se rendre compte que dans ses œuvres de jeunesse, il y avait déjà des filons, une grande déjà perçu une multitude de pistes incroyables dans la pratique artistique et dans la thématique. Alors, ça s'appelle La Véranda, il s'agit de sa fille, Julie Manet, qui est donc la fille de Berthe Morisot et du frère d'Edouard Manet, qui est le frère de... c'est Eugène Manet, le frère d'Edouard Manet. Voilà, Eugène Manet, et qui sera ensuite, d'ailleurs, à sa mort, élevé par Stéphane Mallarmé, la famille Mallarmé, etc. Alors, on verra que Berthe Morisot avait vivait au milieu, effectivement, d'un monde artistique très, très riche. Alors, ce qui est remarquable ici, il y a plusieurs choses. D'abord, le sujet, c'est le thème de l'enfance qu'on a très rarement vu. Hein, au XIXe siècle, on voit très peu, sauf, effectivement, chez certains peintres femmes, même au XVIIIe ou XVIIe siècle, considéré comme anecdotique, peu intéressant, qui ne rentre pas dans les grandes catégories des œuvres d'art, ni classiques, ni religieux, ni historiques, ni dans l'art du portrait, sauf quand c'était des commandes d'enfants, pour faire des portraits, etc. Donc il y a l'idée de l'enfant, il y a l'idée du jardin, il y a le monde intérieur, hein, et puis aussi un personnage qui nous tourne quasiment le dos. Donc on est là quelque chose dans une mise en scène et une thématique au niveau de l'iconographie assez originale. Et puis évidemment, il y aura la pratique ici de Berthe Morisot. Alors, le fait qu'on soit dans une scène d'intérieur, avec en même temps l'extérieur, la véranda. Ceci, c'est très intéressant, le rapport intérieur-extérieur. Que l'on dira, c'est un truc tout bête, mais ça nous rappelle l'idée du mur ou de la fenêtre. C'est-à-dire qu'on est à la fois dedans et dehors. Hein, c'est que dedans, il y a le mur et la fenêtre, c'est l'extérieur. C'est au contraire la profondeur. Et là, vous avez une thématique qui sera très souvent abordée chez les impressionnistes, et par Berthe Morisot, et par Manet, etc. C'est de concilier la dimension plane de la peinture, sur la surface, hein, le mur, et en même temps, la profondeur et la lumière. On peut dire que c'est même la grande question artistique des impressionnistes, c'est de concilier ce paradoxe. On va voir en quoi ça se joue aussi. Alors, c'est une vue d'intérieur, la jeune fille est de dos, elle est active, c'est-à-dire qu'elle fait quelque chose, elle ne pose pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on peut dire qu'elle est surprise en pleine activité, sans même se rendre compte qu'elle est en train d'être peinte. Donc, on est dans l'instant aussi. Ça aussi, c'est très important chez les impressionnistes et chez Berthe Morisot, c'est qu'on est dans l'instant. Puisque justement, hein, on voit, elle est en train de je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, hein, voilà, elle est surprise. Non, elle n'est même pas surprise, elle est surprise sans le savoir, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre, et dans ce cas-là, il y a sa mère qui est en train de la peindre. Donc il y a aussi une intimité, hein, puisqu'effectivement, c'est un moment de vie intense, puisque c'est sa génération de sa mère-fille. Et puis vous avez ce qui est très clair, c'est l'utilisation de la couleur, la chevelure rouge, la rousse de sa fille, qui est un contrepoint remarquable avec la dominante, effectivement, verte et bleue du paysage qui est autour, puisqu'on est là dans un rapport de complémentaire, avec ruban, y compris bleu indigo, quasiment dans les cheveux, donc un rapport très coloré. Alors, là où l'œuvre de Morisot est remarquable, c'est qu'en même temps, elle est totalement cohérente dans la touche, puisque la touche qui est parfaitement visible et même affirmée, hein, regardez, elle n'essaye pas du tout de dissimuler la touche, au contraire, elle l'affirme, le geste, la matérialité de la peinture est parfaitement visible, ça c'est quelque chose qui, bon, on verra, c'est régulier, c'est récurrent chez les impressionnistes, mais elle a cette touche particulière, hein, ce sont souvent des grandes, des traces assez longues, hein, franches, assez nerveuses, parfois elle les ralentit quand il s'agit de s'approcher du visage, etc., mais vous avez une sorte, comme une certaine urgence à peindre, fait que sa peinture semble être proche du croquis. Et c'est en ce sens-là aussi que c'est bigrement cohérent, puisque c'est comme si elle saisissait un instant. Donc, c'est comme si elle peignait vite, parce que peut-être sa fille va se lever, va s'agiter, va tourner la tête, etc. Donc on saisit aussi un instant. Vous avez aussi quelque chose de la présence de la touche qui est remarquable, parce que c'est justement la conciliation entre la surface de la toile et la profondeur et la transparence. Le fait de laisser la trace visible fait qu'on n'est plus du tout dans l'illusion. On n'est plus du tout dans l'illusion. On est au contraire dans la matérialité de la peinture. C'est-à-dire, une couleur, c'est de la boue qu'on va étaler sur une surface, tout simplement. Et c'est clairement lisible dans le travail de Marc Morisot. Mais en même temps, ces boues colorées étalées sur des surfaces suggèrent des lumières, suggèrent quelque chose qui a, au contraire, quasiment immatériel, et y compris même de la profondeur, hein, comme on le voit ici. Donc on est à la fois dans la profondeur et la lumière, quelque chose d'immatériel, et quelque chose de très prosaïque, hein, tangible, visible. Il n'y a aucune illusion. Elle déconstruit très clairement dans sa peinture l'illusion de la peinture. Pour ne retenir que l'émotion, la sensation, la brièveté, l'instant, etc. Alors pourquoi c'est cohérent aussi? Parce que c'est cohérent avec le sujet d'une jeune fille de l'enfance, qui est un état fragile et éphémère de la vie. C'est cohérent avec le fait que l'enfant ne pose pas, elle est surprise à un moment d'une activité qui est brève, elle n'est pas en train de poser longtemps. C'est cohérent aussi avec la lumière qui elle aussi est brève, et s'en va, et s'enfuit. Donc vous avez, avec Berthe Morisot, dans ce type de travail, quelque chose qui fait que sa touche, sa couleur, est parfaitement cohérente avec le sujet, hein, y compris avec cette idée de quelque chose qui semble léger, comme inachevé, y compris comme le temps, comme le moment, qui est quelque chose d'inachevé, on n'achève pas un moment, on le saisit, et la touche, qui est de l'ordre du croquis, se libère complètement de la finition, qui était le modèle du 19e siècle en peintre, l'idée de contrôler, de maîtriser, de dominer les éléments de la nature. Hein, vous vous souvenez, j'en ai parlé de
Marx. Mais pour les cheveux, pourquoi il y a cette non-finition jaune là-bas, au milieu de la tête?
Là,
oui. C'est la lumière.
Ouais. Alors, vous avez tout compris. Quelque chose qui, c'est par rapport à ce que je disais, qui est très malin, c'est que, regardez, elle montre y compris une partie de rideau ou de store plus ou moins baissé. C'est-à-dire qu'elle affirme aussi la surface, y compris de la vitre. Il y a aussi un plan. On voit le paysage à travers une surface qui est transparente, mais qui est aussi une surface. Et vous avez l'affirmation aussi du rectangle, hein, qui est le rectangle de la toile. Et puis, vous avez quelque chose aussi chez elle qui est remarquable, par exemple, dans la touche, c'est que la déconstruction du dessin comme contour. Ça, c'est vraiment... Alors, évidemment, elle n'est pas la seule, parce que tous les impressionnistes seront dans cette espèce de... C'est d'ailleurs ce qui va les relier en grande partie. C'est qu'ici, vous n'avez plus... On pourrait croire qu'il n'y a plus de dessin. Au sens qu'il n'y a plus de contour. Il n'y a plus de ligne. Et rappelez-vous ce que je vous disais, une chose qui terrifiait les académiques au 19e siècle, c'est l'idée de ne pas contenir, de ne pas contrôler. La nature, les forces, les éléments, la sauvagerie, tout ce qui était primitif, etc. Et dans la tradition artistique, le contour, y compris la maîtrise du geste, c'est une façon de dire qu'on maîtrisait la matière, qu'on maîtrisait la nature. Elle, au contraire, a l'impression que tout est parfaitement libre. Il y a une liberté qui est presque une sorte d'insulte aux académiques et aux pompiers, qui eux n'ont de cesse que de contrôler, y compris, on va dire, à la pensée conservatrice du 19e siècle. Ça paraît comme des sauvages qui laissent, et en plus, quelque chose qui est une sorte d'audace dans le travail de Morisot, c'est l'idée que quand elle fait ça, elle laisse penser qu'on pourrait croire d'elle qu'elle ne sait pas dessiner. Oui. Y compris une liberté par rapport au regard des autres sur son travail, on pourrait croire qu'elle ne sait pas dessiner. Mais évidemment, alors, bon, c'est vrai que les gens sont quand même pas bêtes, ils se rendent bien compte que pour situer au bon endroit certaines tâches, il faut avoir une sorte de dessin sous-jacent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir en tête les formes de façon très précise. Hein, d'ailleurs, Morisot, même Monet, par exemple, a commencé sa carrière comme caricaturiste d'une précision incroyable. Turner aussi, quelqu'un d'une précision incroyable dans le dessin. Mais en peinture, ils se lâchent apparemment. Et en fait, ils ont en main, si vous voulez, la forme. Elle y est. On le voit dans la paraphe, on le voit y compris dans l'anatomie. Autre chose, Berck-Morisot est assez caractéristique, y compris par ses rapports colorés, hein, où elle sait très bien utiliser les rapports colorés, les couleurs complémentaires. On l'a vu avec le bleu indigo et l'orange, la petite tache rouge et le vert, ici, qu'on a vu avec Corot. Et on verra que ce n'est pas non plus un hasard. Alors, la dominante ici au premier plan, ocre et bleu. Hein, vous avez ici des couleurs complémentaires. Et ici, plutôt, vert et rouge. On est dans des rapports de complémentaires. Elle est, de ce point de vue-là aussi, dans l'invention impressionniste qui est de s'écarter du modelé du noir et blanc. C'est-à-dire que la lumière, elle n'est plus traduite par, on va dire, l'ombre et la lumière, mais par la couleur et par les rapports colorés. Alors, en fait, cette œuvre est quasiment emblématique, y compris, vous avez montré les cabinets de curiosité ici, mais vous avez la lumière en reflet, vous avez la lumière avec les transparences, les ombres colorées, vous avez la lumière du ciel, vous avez peut-être la lumière qui joue avec ici les transparences et les reflets sur la vitre. Vous avez donc à peu près une sorte de catalogue de tout ce qui peut exister derrière cette œuvre. Vous avez une multitude de latitudes et de points de vue, on pourrait dire, qui sont sur l'histoire de la peinture elle-même, y compris la perspective, avec la table en perspective, et ici, au contraire, le rectangle. Le fond vert, et puis aussi le premier plan, y compris là quelque chose qui partage, hein, cette véranda en une partie peut-être fermée, une partie peut-être ouverte, avec une ambiguïté. Alors, donc, je voulais commencer par celle-ci, et puis ensuite on va naviguer un petit peu autour de... Alors, la voilà, peinte ici, je sais plus, je crois qu'il y a un autoportrait. Oui, ce sont des autoportraits. Ce sont des autoportraits. Où là, effectivement, alors il y a une exposition Toulouse-Lautrec qui commence, on est dans du tout, enfin, où Toulouse-Lautrec est dans du Berck-Morisot, il est beaucoup plus jeune qu'elle. Hein. Vous avez ici, on voit bien qu'elle maîtrise le dessin de façon absolument remarquable, le contour, le trait, la ligne, y compris qu'elle peint en dessinant, qu'elle dessine en peignant, le côté inachevé pris sur le vif, hein, avec la gestualité, la virtuosité au niveau de la lumière. Hein, dans les deux cas, etc. Et puis, sa touche, hein, ce qui est assez souvent repérable. Alors, plus tard, Gilles Deleuze, parce qu'il y a une exposition Francis Bacon, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu une autre avant, mais le philosophe parlait du graphème pour parler de la touche des artistes. Il disait, à ce moment, un artiste, ben, comme une signature, vous avez, on va reconnaître la patte de votre écriture manuelle, bien, un peintre, ça se voit aussi par sa touche. Hein, par sa touche. Moins les peintres académiques, justement, qui vont maîtriser, contrôler leur la présence physique. Alors que, justement, avec des gens comme Berck-Morisot, Renoir, la touche va se libérer. Alors, on peut regarder, y compris alors, les grands antécédents, ce sont Greco et Velázquez, et puis Fragonard, qui vont être des peintres, on va dire, qui vont inaugurer le geste. C'est pas un hasard si, y compris Manet, Morisot, etc., vont s'intéresser à Velázquez, par exemple. Il y a des peintres avec Titien. Il y a une continuité de Titien, Greco, Velasquez, Manet, qui est, on va dire, des peintres qui vont laisser la peinture se voir. Et bien, on va laisser le geste se voir dans la peinture. Il y a une sorte de continuité. Alors voilà, donc, Berthe, précisément. Alors, ici, une peinture de Berthe Morisot vue par sa sœur, qui était peintre aussi, Edma Morisot, qui va arrêter ensuite de peindre, etc., qui va inviter à Lorient ensuite et qui arrêtera la peinture, et qui est une très bonne paysagiste. Et ici, vous avez Berthe Morisot, souvent on a connu d'elle que ce portrait, puisque c'est un détail du balcon de Édouard Manet. Hein, donc, là voilà, donc, on voit un visage souvent un peu sombre, hein, qui contraste un peu avec la légèreté et la fraîcheur de ses peintures. Et voilà. Alors, voilà des peintures de sa sœur Edma. Hein, des peintures de sa sœur Edma. Donc, les deux sœurs Morisot étaient leurs filles d'un haut fonctionnaire qui était en préfecture, elle est née à Bourges, je crois. Et donc, il y a pas de souci avec les gens. Assez vite, elles sont intéressées par la peinture, elles vont prendre des cours, et le professeur dit au père, oh là là, attention, vos filles sont plus que douées, c'est un vrai drame que je leur en prenne la peinture, parce que ça risque de contrecarrer un petit peu les projets que vous aviez pour elles. Donc, très vite, on voit qu'elles sont très douées. Et d'ailleurs, très jeunes, hein, elles vont commencer à peindre, à pouvoir exposer d'abord dans des petits lieux, etc., je ne sais plus exactement le détail. Mais vous avez quelque chose ici qui est effectivement une émulation de ces deux sœurs. Alors évidemment, quand on regarde la peinture de Edma ici, eh bien on retrouve Corot, parce que le premier professeur qu'elles ont eu se sentait pas assez fort, quasiment pour elles, je crois, et il va les recommander à Corot. Et en fait, Corot va être un des premiers peintres, un des premiers professeurs de Berthe et Edma Morisot. Donc ça se voit dans le travail de sa sœur, surtout, et dans certains premiers paysages qu'on verra plus tard, de Berthe Morisot. Et c'est là où on retrouve un Corot qu'on a vu l'autre jour, qui décidément a influencé comme ça, sans modifier, hein, qui a su être un maître remarquable. Alors là, je vais vous montrer Corot. Elle rencontre aussi Daubigny, que l'on a vu avec Corot. Donc si vous voulez, c'est comme une jeune femme artiste, elle va être repérée aussi par des artistes qui sont plus âgés et qui les reconnaissent comme des un grand potentiel. Y compris Daumier. Hein. Donc, ça, c'est les peintures que je vous ai montrées autrefois. Mais c'est assez marrant de voir que, si vous voulez, il y a une continuité, une sorte de transmission d'artistes qui travaillent très différemment, mais qui ont su transmettre et voir les qualités chez ces deux jeunes femmes. Alors, la voilà encore, alors, vue par Manet, a toujours aussi, il a pris comme modèle plus tard, hein, c'était sa belle-sœur. Et il a pris comme modèle assez souvent, fasciné par son air sombre, et puis effectivement, c'est une noire et blanche. Alors, c'est intéressant, le portrait de son image, qui semble effectivement sombre, mais ça dit pas mal de choses aussi sur la tradition, on va dire, espagnole, et y compris sur le travail du noir et blanc. Parce que le paradoxe de Manet, alors on verra même avec quelqu'un comme Berthe Morisot, c'est que... ils vont travailler la couleur, mais qu'est-ce qu'on fait du noir et blanc? Ben, les noirs et blancs vont être considérés cette fois-ci, y compris comme des couleurs et comme des surfaces, et non plus comme des modelés. D'ailleurs, si vous regardez ici, hein, c'est assez tranché même sur le visage de face, mais ici vous avez surtout la surface du tableau est traitée en masse, en grande surface, soit claire, soit sombre, mais beaucoup moins comme des modelés ou des dégradés. Donc, si vous voulez, vous avez alors derrière la visage et les habits de Berthe Morisot, Manet voit aussi un enjeu pictural que l'on verra plus tard, d'ailleurs, traité par Morisot elle-même. Alors voilà, elle a posé très souvent, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on la connaissait surtout comme modèle de Manet, avec ce que je vous dis, hein, on le voit ici, cette idée de surface et quasiment pas de modelé. Et chez Manet, on trouve aussi la question de la surface, hein, ici, comme par exemple des aplats, le rectangle dans le rectangle du canapé, très peu de modelés même sur le canapé, et même sur la robe, qui est vue comme une sorte de tache. Mais on y reviendra plus tard avec Berthe Morisot. Alors maintenant, revenons à des peintures qui sont plus proches de la première, ça c'est pour vous donner quelques pistes autour de sa histoire, rapide. Et on voit que la véranda, en fait, s'est déclinée. Hein, c'est décliné comme si elle reconstituait un environnement aussi, qui lui au quotidien. Je crois que donc il saisit toujours de sa fille, cette fois-ci il fait face, mais toujours plongé dans une activité, ignorant quelque part le regard que sa mère pose sur elle. Alors, je crois que la peinture de droite est plus récente encore, hein, mais encore que non, puisque la jeune fille a le même âge. Alors, c'est pas la seule, elle ne va pas peindre uniquement sa fille, elle peindra aussi sa nièce, Paul Gobillard. Gobillard, je crois. Mais on voit à chaque fois un dispositif de scénique, on va dire, qui est assez proche. L'ouverture, la fenêtre ouverte avec le reflet, l'image dans l'image, les rectangles et les cadres, la touche, y compris cette jeune fille qui lit, donc quelque part, qui est plongée dans une autre activité, qui est surprise, et puis les rapports colorés qui sont toujours très subtils, là. Bleu et ocre pour signifier un peu l'intérieur, en gros une dominante verte et rouge. Et rappelez-vous que c'était un des trucs de Corot aussi, hein, dans les grands paysages. Vert et bleu, il mettait une petite touche de rouge, hein, de couleurs complémentaires pour rajouter. Donc, intuitivement, alors, les théories des couleurs complémentaires ne sont pas encore établies, ça sera vraiment théorisé par Robert et Sonia Delaunay un peu plus tard, mais c'est le moment où on commence à réfléchir vraiment au rapport coloré et aux couleurs complémentaires et aux contrastes simultanés. On se rend compte que les couleurs complémentaires se réveillent l'une l'autre. C'est-à-dire le rouge va réveiller le vert et le vert va réveiller le rouge, etc., par contraste, et grâce à la mémoire rétinienne. Et donc, si vous voulez, les artistes impressionnistes le devinent assez vite, et on le voit clairement là-dedans. Alors, sa touche hein, est toujours la même, avec cette impression, justement, de croquis, qui repose toujours sur cette idée de l'instant. Alors, vous avez, et on le voit ici, une touche un peu plus ronde, hein, mais avec... Par exemple, si on zoome, là, c'est quasiment un travail sur un papier, c'est sans doute plus petit. L'idée de laisser aussi le fond, la toile apparaître, ou le support apparaître. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de ne pas tout recouvrir. Donc, non seulement le geste est libre, mais il y a l'idée que achever une peinture, ce n'est pas tout recouvrir, ce n'est pas tout maîtriser. C'est s'arrêter à un moment. Trouver le bon moment pour arrêter une œuvre. Donc il n'y a pas une sorte de chemin tout tracé. Ce qui fait qu'il y a quelque chose de très aéré, de très vivant, puisque justement, on voit cette idée d'inachèvement, de temps suspendu, puisque y compris le temps de l'artiste est suspendu, puisqu'il arrête son geste à un certain moment. Regardez comment le dessin s'interrompt, la ligne s'interrompt, pour se reprendre, pour s'effacer, par exemple sur le bras, elle va faire le contour du coude, la pointe du coude, et puis ça s'interrompt, et puis ça redémarre, etc. Donc, ça encore, c'est non seulement une grande virtuosité anatomique, parce qu'elle peut dire les choses par le dessin, le contour, ou les reprendre tout à coup par la couleur, la lumière. Donc elle joue, y compris avec différents degrés, différents types de représentations, la touche, la couleur, le modelé, le dessin, etc. Et toujours une grande cohérence avec le monde de l'enfance, puisque, et de l'intime. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a... Alors, je vous en montre plusieurs. On retrouve presque toujours ces silhouettes de dos avec la belle natte rouge et ocre. Alors, de sa fille ou de sa nièce, je ne sais, c'est pas toujours indiqué, souvent c'est sa fille. Avec quelque chose ici qui est très clair, c'est le dossier de la chaise. Cette idée de la grille, comme ça, qui est rectangulaire et qui est face à nous, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez mamie avec le balcon, avec la jeune fille devant la grille, avec la nourrice là, devant la grille de chemin de fer, avec beaucoup des peintures de Manet, vont reprendre cette idée aussi, qui affirme la surface de la toile, la frontalité, une sorte d'écran, comme ça. Et là, vous voyez le rapport coloré remarquable. Et puis ça touche, hein, toujours totalement affirmée, légère et virtuose, qui semble en plus ne pas avoir de repentir. On a l'impression que c'est fait avec une très grande aisance, une très grande virtuosité. Alors, et là aussi, toujours intérieur extérieur. Alors, beaucoup de ces œuvres sont quand même dans des mondes clos. On verra que ce soit la maison, puis ce sera la véranda, ouvert, fermé, clos mais transparent. Et puis, vous avez, on verra plus tard, le jardin, mais il y a souvent chez Bert Morisot. Alors, Ça aussi, c'est symptomatique aussi ben, d'un univers, hélas, féminin à l'époque, où effectivement, vous aviez la plupart des femmes qui ne travaillaient pas, entre guillemets, étaient dans le monde de l'intérieur. On a vu ça chez Chardin, on a vu ça même chez Fragonard, etc. Donc, un monde intérieur de la maison, dans lequel on voit très peu d'hommes, hein, on voit très peu d'activités, et qui est quelque part quelque chose qui apparaît comme désuet. Désuet ou sans intérêt pour, on va dire, les puissants ou les décideurs du 19e siècle. On a plein de 19e siècle, fin du 19e siècle. Donc ce sont des univers qui semblent totalement inintéressants, on va dire, aux clients ou au monde dominant. Alors, ce thème comme ça de l'intérieur, on va le retrouver dans le jardin, hein, on va le retrouver aussi dans les activités, lecture, broderie, couture, etc. D'une grande concentration qui lui permet de saisir un instant, mais un instant qui dure. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très beau dans l'œuvre de cohérente de Berthe Morisot. Elle saisit un instant, mais ce sont des instants où tout d'un coup, comme dans un atelier de Vermeer, où tout d'un coup tout est concentré, c'est que le temps est suspendu. Puisque la concentration pour la broderie, je pense qu'on peut savoir quelque chose, ou dans d'autres activités comme ça, fait que tout d'un coup on est hors du temps. Et donc le temps est suspendu. Et ça renforce encore plus cette idée que, y compris le reste du monde, semble flotter et se désagréger un petit peu. Il n'est plus si essentiel à définir, puisque on est dans son monde, dans un monde intérieur. Donc, non seulement un monde intérieur, mais les personnes qu'elle représente sont y compris dans leur monde intérieur. Un monde purement personnel, intime là aussi, qu'elle décrit, alors ça c'est du tricot, qu'elle décrit avec légèreté, sans non plus insister, puisqu'elle les laisse à une certaine distance. Ça aussi, c'est remarquable. Alors vous voyez d'ailleurs, on arrive vers quelque chose qui est absolument génial, notamment dans les chrysanthèmes. C'est quelque chose que plus tard, il faudra presque attendre Picasso et Pierre Mondrian, pour assumer, enfin, un petit peu, cette idée que les contours sont de plus en plus flous. Les contours sont de plus en plus flous. Plus on est au centre, plus c'est concentré, puis plus on s'écarte de la figure centrale, plus on a quelque chose de flou. Or, ça correspond très clairement à la vision. La vision, hein, puisqu'on sait que les cellules du centre de la rétine sont plus précises, et sur les contours, on est dans le mouvement, on ne voit pas à travers le rectangle. La vision naturelle, donc, si vous voulez. Elle se rapproche aussi d'une vision naturelle, en fait, puisque, et c'est ça qui est intéressant, non seulement sa vision est plus précise au centre, flou sur les contours, mais y compris la personne qu'elle représente est concentrée sur un point et ignore quasiment l'extérieur. Donc vous avez aussi, dans cette espèce, la façon d'être nous amène vers le centre, quelque chose aussi qui est remarquable. Et puis il y a les petits détails comme de la corbeille, hein, qui sont des petits morceaux de bravoure, parce que si, alors là je vais résumer, ici vous avez quelque chose qui, on va dire, est assez nettement figuratif. Si vous n'aviez pas la figure et les signes qui représentent cette femme en train de tricoter, la partie gauche est quasiment non identifiable. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans... Alors, on ne parle pas encore d'abstraction, mais on est dans une présence pure de la peinture pure. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, chez elle, et chez les impressionnistes en général, sera évidemment ouvre la voie à des recherches qui vont faire presque tout l'art du XXe siècle sera sur le principe ouvert par ces artistes impressionnistes. Et moi, je ne sais toujours pas. Alors, je ne vais peut-être pas vous les montrer tous, mais vous voyez qu'au prix chez Morisot, il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, entre le croquis, l'ébauche, l'esquisse. Ou la peinture, on va dire, terminée, toujours ce même modèle. Je n'ai pas tout récupéré. Et là, vous avez aussi regardé par quelques touches comment Paris, les immeubles haussmanniens, la petite fille à la fenêtre, qui ne sait pas très bien ce qu'elle fait, elle s'est dans son monde aussi de l'enfance. Alors, ça aussi, c'est très beau. Alors, l'idée d'associer femme et enfant, le côté, on va dire, naturel, mais rappelez-vous que c'est considéré par, on va dire, la classe dominante masculine, hein, qui fait le pouvoir du 19e siècle, comme des catégories inférieures, proches de la nature, et bon, qui ont leurs petites activités, mais où, de la même manière que l'enfant joue, ou la femme tricote, ou la femme peint, c'est un peu la même chose. Il y a toujours cette idée d'activité, un peu de distraction, de divertissement, mais qui ne sont pas majeures. Hein. Alors, la mélancolie peut-être d'ailleurs de Bertrand Morisot, on peut imaginer aussi, c'est que se sentant grand peintre, elle va être quand même reconnue très vite par des amis, hommes et femmes, artistes, y compris des collectionneurs, mais elle sera une des plus critiquées quand il y aura des expositions impressionnistes. On dit qu'il y a les impressionnistes, je ne sais plus qui dit, il y a les impressionnistes, mais parmi eux, il y a une femme, mais en gros, c'est une folle furieuse. Parce que c'est presque la plus sauvage des plus sauvages impressionnistes. C'est-à-dire qu'elle va être aussi assez radicale. Sans doute, c'est ce que je vous ai dit, parce que, étant plus libre, parce que finalement, n'attendant pas grand-chose au niveau de la reconnaissance, elle se sent libre, y compris au niveau de la pratique. Alors, le thème de la solitude, ici, c'est justement quelque chose aussi que l'on trouve chez elle. Assez souvent, on trouve même dispositif, même présentation, mêmes harmonies colorées, peu de modelés, et pourtant une superbe présence de la lumière. Elle est caractéristique au niveau de ses bleus mauves et ses gris-bleus, ses bleus-noirs un petit peu, qu'on trouvera un petit peu chez Cézanne. Virtuosité, y compris au niveau des plantes, mais quand même toujours cette espèce de solitude de ces personnages, on va trouver très souvent. Soit les enfants sont dans leur jeu, dans leurs pensées, dans leurs activités, soit effectivement seuls dans des intérieurs, avec une sorte de petite nature qui leur est octroyée, qui est derrière, mais vous avez quand même souvent quelque chose qui encadre, hein, qui contraint, comme on le voit ici avec cette espèce de cage. Hein. Là aussi, c'est le thème de la frontalité, l'orthogonalité que l'on va trouver dans les vitres ici, dans le banc, comme sur la chaise, quelque chose qui, chez Manet, sera aussi récurrent. Et puis alors là, le bonheur d'avoir une fille aux cheveux roux, c'est de pouvoir jouer sur les rapports colorés. Ça, on le verra chez Degas et chez tous les autres. Hein, c'est qu'avoir les cheveux roux, c'est un bonheur pour les peintres, parce que les rapports au bleu et au vert arrivaient assez vite. Donc vous voyez qu'il y a, autour de la véranda, il y a énormément d'œuvres de Morisot qui reprennent, qui font des variations sur ces personnages dans le monde impersonnel. Mais le jardin aussi, c'est quelque chose qui est, on est en ville, qui est relativement désuet. C'est pas la grande nature qu'il faut maîtriser, c'est pas la grande nature industrielle, c'est pas les grands territoires agricoles, ce ne sont pas les mines, ce ne sont pas les canaux et les canalisations, c'est pas la vapeur, c'est pas le charbon, c'est pas toutes ces choses-là. Et c'est même pas le potager, hein, c'est pas les champs privés, c'est le jardin d'agrément réservé comme ça aux femmes, aux enfants. C'est une sorte de nature un petit peu désuète. Alors, j'insiste là-dessus parce que l'art de peindre le jardin, c'était pas du tout une tradition artistique. Vous pouvez peindre des bouquets avec le principe, etc. Le paysage, on l'avait avec Corot, mais le jardin, c'était quelque chose, effectivement, le petit jardin d'arrière. Ou le jardin de curé, c'est des choses qui n'étaient pas faites pour, on va dire, les hommes actifs et industrieux. Donc, et puis, il y a dans le jardin quelque chose que Berthe Morisot a trouvé. Elle n'est pas toute seule. Attention, elle n'est pas suiveuse. Elle commence à peindre au début des années 68, 69, 70. Donc, si vous voulez, elle est tout à fait de la génération Monet. Elle a quasiment l'âge de Claude Monet, hein, de Manet. Si vous voulez, elle n'est pas du tout une suiveuse. Elle est totalement en phase avec sa génération. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est aussi inventif que quand on voit Claude Monet peindre son jardin, même un peu plus tard. L'intérêt du jardin aussi, et on voit ici des fleurs, par exemple, c'est que par définition, un jardin, ce sont plein de petites surfaces, plein de petites touches. Et que le jardin, lui aussi, il est éphémère, ça passe, c'est quelque chose qui est fragile, comme l'enfance, comme l'instinct, comme la lumière. Donc, vous avez avec le thème du jardin quelque chose qui est parfaitement cohérent. Et puis, qui a l'avantage de pouvoir se traiter, un jardin, ce sont des feuilles, des fleurs, des tiges, donc ce sont plein de petits gestes, petites touches colorées, comme ça, vives, souvent pas en modelé. Les feuilles, on les a vues avec Marianne Norse, on les avait compris, les herbiers, les feuilles et les pétales peuvent toutes être finalement réduites à l'état de surface. Parce qu'on a vu aussi les herbiers de Hopkins, les cyanographes, etc. C'est-à-dire que vous avez, ce sont des surfaces, mais des surfaces qui s'agencent pour faire des volumes. Et si vous voulez, vous avez donc une sorte d'équation et d'équivalence qui se passe entre le jardin, ses touches, les feuilles, les tiges, les fleurs, les pétales, et les touches de peinture qui sont aussi des petites surfaces de couleurs qui, agencées, finissent par construire des volumes. Donc vous avez l'idée du jardin ici, c'est quelque chose qui est, on va dire, culturel, sociologique, mais aussi pictural, qui aborde un intérêt pictural. Alors là, par exemple, les roses frémières, on voit bien, tout d'un coup, ces peintures de jardin qui sont exceptionnelles, de 1880, où là, on voit encore l'enfant, mais là, on voit bien ce que je vous disais au niveau de ce que c'est qu'un jardin. Ce sont des touches, ce sont des couleurs, ce sont des formes, mais il n'y a pas de modelé, ce sont juste des nuances, etc. Et alors là, c'est exceptionnel, ça, parce que là, on est dans une virtuosité terrible. Et ça aussi, Berthe Morisot est remarquable là-dessus, c'est qu'elle sait choisir. Dans le jardin, qu'est-ce qu'on va peindre? Qu'est-ce qui va vraiment faire signe? Qu'est-ce qui va faire sens? Qu'est-ce qui va en même temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir? Donc vous avez chez elle aussi non seulement une approche analytique, mais y compris synthétique, parce qu'elle ne dit pas tout. Et en même temps, elle dit beaucoup sur le jardin, sur la lumière, sur l'espace, sur la profondeur et sur les fleurs elles-mêmes. Et en même temps, c'est ce que je disais, elle dit beaucoup sur la peinture elle-même. Ce que c'est que la peinture, et bien là, vous avez des touches d'une virtuosité prodigieuse, avec vers le haut, vers le bas, etc. Et tout ça dans un ensemble cohérent. Toutes ces parties qui se rassemblent. Alors là, vous avez quelque chose, alors là, c'est les roses trémières ici, qui sont exceptionnelles, avec le flou, hein, est capable de laisser, y compris des parties entièrement floues, puis d'un coup, l'enfant. On est toujours dans le monde de l'enfant, du jardin, des petites choses, etc. Et puis en même temps, ça c'est, on va dire, la tradition de Chardin, Vermeer, mais repris par Morisot et d'autres. Finalement, ces moments-là sont peut-être aussi des moments de grâce, parce que c'est lumineux, c'est hors du temps, c'est des moments presque de rêve, de beauté, des instants suspendus. Et là, il y a quelque chose aussi qui est très serein dans le travail de Morisot, comme on le voit ici. Alors, ça correspond aussi à la période de Paris, qui est en train de s'industrialiser, on l'a vu, hein, de se minéraliser, y compris de faire place au métro, au train, à l'acier, à la fumée, à la pollution. Donc, on sait que pas mal d'impressionnistes, etc., vont avoir une sorte de contrepoison, si vous voulez, ça va être une sorte de retour à la nature. C'est pour ça que Marianne North, elle va très très loin pour fuir, on va dire, la révolution industrielle anglaise, elle va chercher une nature presque première, hein, et Berthe Morisot va la chercher dans le jardin. Mais vous avez quand même une manière de revoir la végétation et la nature première comme une sorte de contrepoison à un monde qui devient de plus en plus minéral, bruyant, technologique, industriel, et y compris que l'on pourrait presque décrire comme quelque chose de mécanique, c'est-à-dire entièrement contrôlé, puisque le principe même du 19e siècle et des machines, c'est de contrôler non seulement les matières premières, mais ensuite le temps. Vous savez que les montres arrivent avec le train, pour qu'on puisse harmoniser les transports en train, il faut qu'on ait à peu près le même temps. Et donc les montres et les pendules, à part les vieilles montres, les clepsydres, mais le fait d'avoir le même temps, donc compter le temps, mesurer le temps, maîtriser l'espace, maîtriser les matériaux, tout cela avec l'idée des machines et du machinisme, eh bien on peut dire que le travail de Morisot, par exemple, c'est l'exact contre-pied. Parce que là, on a l'impression qu'au contraire, le temps est suspendu, on s'arrête, on laisse flotter, on semble rien maîtriser, et on profite d'une nature au lieu de la contrôler. On va même se perdre dedans. C'est là où, justement, elle a aussi, il n'y a pas que les vérandas, etc. Il y a chez elle aussi des approches différentes. Alors bon, je ne sais pas si je pouvais montrer, je ne vais pas me répéter à chaque fois, hein, mais vous avez cette idée-là. C'est quand même intéressant, parce que là, vous avez juste une poupée, il n'y a plus, avec une dinette, l'enfant est parti, hein, et finalement, le jardin est intéressant aussi pour lui-même. C'est-à-dire que même, ce n'est pas qu'un décor, c'est qu'il se passe quelque chose dans le jardin. Hein. Et alors, toujours, cette idée du poteau, des stores plus ou moins baissés, on ne sait pas très bien si on est dedans, dehors, cette incertitude, et les touches. Et là, les petites filles dans le jardin, etc. Alors, les moments volés et la touche, on le voit alors là de manière remarquable avec la fable, hein, c'est une femme qui est en train de raconter une histoire à l'autre. Le traitement du sol, de la terre est prodigieux. La perspective décalée, ça c'est quelque chose que l'on verra chez Degas. Alors, elle connaissait très bien Degas. Hein, Degas faisait partie de ses proches, hein, donc elle a très vite, alors très vite, elle a rencontré aussi pas par son art, hein, parce qu'elle était reconnue, y compris par ses artistes. Degas l'appréciait beaucoup. Degas appréciait beaucoup, y compris Marie Cassatt, on verra. Donc elle va rencontrer d'ailleurs Renoir, elle aura des échanges avec Monet, elle va même participer aux expositions impressionnistes. Donc si vous voulez, elle n'est pas du tout hors des cadres. Hein, donc, mais elle fait aussi les mêmes types de recherches. On verra plus tard avec Degas l'idée d'une perspective aussi décentrée, hein, qui nous fait ouvrir vers la gauche et zigzaguer un peu dans la peinture. Et puis il y a cette idée de la touche, alors là, qui s'affirme totalement avec une liberté absolument grandiose. Alors, ce qui est clair aussi, c'est que le 19e siècle, on parle de maîtrise mécanique, je parlais des horloges, je parlais des pendules, je parlais du temps, du train, etc. Une autre chose qui arrive, vous voyez, c'est la photographie. On l'a vu avec les œuvres précédentes sur la construction, par exemple, l'Opéra Garni, on a vu qu'il y avait déjà des photographies. Alors, les photos, justement, c'est quelque chose qui fascine et libère en même temps les artistes, puisque, Matisse le dira plus tard, la photo fait le job pour ce qui était de la transparence, de la lumière, de la précision, de l'enregistrement exact, du mimétisme, de l'imitation. Donc, si vous voulez, la photo, c'est une image parfaite et qui va faire le travail de l'imitation. Mais, donc, rester au peintre, ce qui va être un travail différent, ça va être justement ce que ne fait pas la photo. La dimension, par exemple. Puisque les photos, à cette époque-là, sont petites. Les premières sont des daguerréotypes, donc, si vous voulez, c'est des exemples uniques, sur métal. Puis ensuite, vous avez des plaques de verre qui peuvent quand même, on peut quand même faire des multiples, mais qui ne sont pas de grande taille, il n'y a pas de très grand papier photographique, il faudra attendre un certain temps. Et donc les photos sont souvent... c'est moi ou c'est... Ah d'accord, donc vous avez l'idée que les photos sont quand même petites, lisses, en noir et blanc, sans matière, parce que c'est juste un travail de lumière qui se transforme, hein, qui est plus ou moins photosensible. Et donc, vous avez cette idée que la peinture peut devenir colorée, avec de la matière, plus grande, plus gestuelle, mais elle va quand même avoir un dialogue avec la photographie, c'est quand même de saisir l'instant, surtout avec les impressionnistes. Puisque ce que la photo fait, certains impressionnistes vont dire, nous aussi, ils vont le dire, ils vont le faire. Nous, on peut saisir l'instant, mais d'une façon peut-être encore plus vraie que la photographie, parce que on va avoir d'abord la couleur, la lumière, et aussi le geste. Le geste, il ne se sera pas dans l'illusion, mais le geste, eh bien ça c'est extraordinaire parce qu'on est aussi dans un rapport paradoxal de quantité et de qualité. Dans la peinture de Berthe Morisot et des impressionnistes, on voit une multiplicité de gestes. Donc en fait c'est autant d'instants. Parce que chaque touche est un instant. Ce qu'on ne voyait pas dans les peintures précédentes. Parce que vous voyez une peinture maîtrisée, lisse. Quand vous faites un geste, à chaque fois ça va durer une fraction de seconde. Donc c'est autant de fractions de seconde. Donc, c'est... Mais qui en même temps suggère un espace, une scène qui s'est déroulée aussi dans une fraction de seconde. Mais on est toujours dans quelque chose de fractionné, on n'est pas dans la continuité. Hein. Et là, c'est assez remarquable, y compris cette quantité de gestes est capable de se concentrer pour donner l'impression qu'on est juste dans un instant. Donc là, c'est aussi assez virtuose. Et alors, c'est senti, c'est pas théorisé. Mais il y a dans l'impressionnisme un rapport au temps, évidemment, et notamment chez Mercure Museo, hein, puisque le temps bref, le temps suspendu, etc. Et le temps même du geste, du travail de l'artiste. Pour le fauteuil d'osier, il faut que... Alors regardez comment l'enfant se fusionne. Alors là, cette fois-ci, on est sorti dans le jardin. Tout à l'heure, on était devant le jardin, là, on sort dans le jardin. C'est-à-dire que vous avez là un moment où on va fusionner. Il va y avoir cette idée de se rapprocher, jusqu'à fusionner dans le jardin, et y compris être tellement dans le jardin qu'on ne voit quasiment plus les contours de l'enfant qui est ici presque comme une fleur, hein, y compris blanche comme les fleurs, etc. Le fauteuil d'osier est ici un élément en relief, on va dire en profondeur, en modelé, mais c'est presque le seul qui donne une sensation, si vous voulez, de modelé. Le banc au loin est presque relégué à l'idée de quelques lignes, l'arrosoir est presque représenté sans ombre, sans modeler, sans ombre propre, sans ombre portée, alors que l'enfant ici a une ombre portée, une ombre propre relative. Donc, vous voyez, on a quelque chose aussi qui est très clair, et le pied totalement flou. Alors le flou, c'est aussi le temps, est-ce qu'elle est pressée, est-ce que c'est rapide. Vous avez cette idée aussi d'une, comme une sorte de de liberté et d'urgence.
Ou lié au mouvement.
Ou lié alors au mouvement. Ça aussi, c'est quelque chose. Voilà. Alors, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, alors, qui sera très peu exploré hein, par Morisot ni par les impressionnistes. Il faut vraiment attendre là, les futuristes italiens quasiment pour avoir l'idée du mouvement, puis Picasso, etc. Mais c'est quand même. On est quand même dans l'instant, effectivement, et ça, c'est assez clair. Ce qui est clair, c'est que Berthe Morisot, d'une manière aussi générale, les impressionnistes, ben, laissent voir leur travail. Le travail est présent, et y compris leur choix, leur liberté. Ça, c'est quelque chose aussi qui dérange énormément, on va dire, les conservateurs esthétiques. Puisque on est quand même, dans les années 70-80, après un 19e siècle, qui politiquement n'a pas arrêté de brimer toutes les libertés politiques, associatives, syndicales, etc. Puisqu'on a quand même trois révolutions qui sont réprimées par la violence et dans le sang. La dernière, c'est la Commune de Paris. Cette idée de contrôler, de dire la matière, etc. Bon, la liberté, c'est un des grands enjeux du 19e siècle. Or, la liberté, elle est manifeste dans la façon de peindre. Dans la façon de peindre, puisque ça montre un choix. C'est-à-dire qu'elle n'obéit pas à des règles. Elle s'invente ses propres règles. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui va être typique de l'art du 19e siècle, c'est-à-dire l'art vivant. Ce sont des artistes qui inventent leurs propres règles. Alors, on l'avait vu avec Courbet qui disait ben, « Moi, je suis réaliste, je m'en fous du reste. Si vous aimez pas, tant pis, mais moi, j'invente mes propres règles. » Les impressionnistes, notamment Berthe Morisot aussi, inventent ses propres règles. Et disent ben, « Voilà, ça fonctionne. » Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne avec mon univers, avec mon travail, avec ma façon de peindre. Mais ça fonctionne parfaitement. Et elle le fait en plus avec une audace qui fera dire d'elle qu'elle est une des plus sauvages des impressionnistes. Alors là, regardez, c'est six femmes au jardin et celui de droite. Donc, jeune fille au chien et femme au jardin, celui-ci. Où là, quand je parle de liberté, de geste, on est quasiment dans des travaux de peintres expressionnistes abstraits des années 50 américains. On est presque dans du. Pas du Pollock, mais effectivement dans du. D'ailleurs, il s'inspire aussi de Conning, etc. Ou Mata, ou presque beaucoup de peintres expressionnistes abstraits américains s'inspireront aussi clairement des impressionnistes, peut-être sans connaître d'ailleurs Berthe Morisot. Mais là, vous avez plusieurs gestes. Alors, on voit aussi qu'elle n'est pas systématique comme pourront l'être, par exemple, certains pointistes. Hein. Ou par exemple qu'elle va et une grande liberté dans sa touche. Le fond semble être totalement frotté, brossé, avec de grandes masses et zones. La touche peut être très large. Ensuite, ça court quasiment comme une sorte de dessin en blanc, comme sur du mitaine. Puis c'est des petites touches, puis des zones un peu plus épaisses pour la maison et plus large. Alors, est-ce qu'elle a. C'est un peu quand il y avait. Elle a quand même connu Corot, hein, Corot qui était capable aussi de faire des touches comme ça, très vastes, et puis parfois un dessin assez libre. Mais c'était encore à l'état, on va dire, d'ébauche conceptuelle. Alors, elle pousse ça très très loin, tout en conservant, et c'est là où elle est très forte, une ambiance lumineuse parfaitement cohérente. Ce qui veut dire la cohérence de son œuvre, c'est qu'il y a une lumière et un espace qui se dégage de
son. C'est curieux, on dirait presque une jeune fille en transparence qui est en train de regarder la femme qui est dans le jardin à gauche.
Ah, il
oui.
Là, avec un
voilà, la tête, le visage, le dos.
J'avais pas vu, mais c'est...
Le bras qui fait juste un liseré bleu.
Oui, ici, et là, une touche rouge là qui serait au niveau des manches. Ah, j'ai pas vu ça.
Comme une petite cape sur le dos. Enfin,
oui,
pas,
oui. Et ici, il y a une sorte de chignon, le visage, l'œil, le nez, la bouche, et la joue ici.
Ouais, moi je voyais de l'autre côté. Moi.
Ça s'interprète. Voilà. C'est l'objectif de Berthe Morisot.
C'est un monde flou.
Alors, ça, c'est quelque chose que Francis Picabia va faire, ce genre de choses, plus tard. Hein. Mais pas très longtemps après. Hein. Alors, cette idée justement d'être dans le jardin, sortir dans le jardin, vous avez quand même dans son travail aussi l'idée d'une harmonie, surtout une joie de vivre, de petits bonheurs simples. Dans ça. Etc., petite gorgée de bière, etc., mais saisir l'instant est une sorte de privilège qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui est un moment de grâce. Alors, la grâce est l'enfance, la lumière, le jardin, une certaine beauté, certains instants volés comme ça à un présent qui va trop vite, qui est entièrement contrôlé, quelque chose qui échappe. Alors ça, c'est très clair, y compris dans ses sujets. Ça, ce sont des peintures de périodes très différentes. C'est dans sa dernière période, fin des années 80, cette jeune bergère avec ici le mouton. Et ici, on a aussi une déconstruction incroyable de ce personnage. Alors les harmonies, c'est-à-dire qu'effectivement, être bien dans le monde, trouver sa place dans le monde, c'est aussi quand même un contenu dans les œuvres de Berthe Morisot. Et c'est pas inintéressant parce que, si vous voulez, par rapport à ce qu'on appelle les impressionnistes, elle est une des rares à faire autant de personnages. Et elle fait autant de personnages, les autres vont vers le paysage, vers la nature, etc. Mais elle est une des rares à toujours inclure autant de figures dans une nature qui importe, là, qui est une nature relativement fermée, mais qui sont quand même en harmonie dans le paysage. Comme une sorte de quête chez elle, toujours. On le voit d'ailleurs, par exemple, dans les baigneuses, où justement, là, on est dans l'immersion dans le paysage. Alors, le thème des baigneuses sera repris par, développé par Cézanne, par Picasso, par beaucoup d'artistes, etc., de René et compagnie. Mais on le voit ici, la surface de l'eau, on verra que la surface de l'eau sera aussi un des enjeux importants chez Morisot. Alors, c'est une des premières fois aussi que vous avez des femmes nues peintes par une femme. C'est-à-dire que c'est plus ni moins un regard masculin sur la nudité. Donc là aussi, une certaine liberté, une autre manière de représenter le corps nu, mais plus naturelle, plus simple. Où là, effectivement, il y a le bonheur d'être immergé. Et là, on voit la grande liberté dont ça touche. Alors, on continue. Alors maintenant, justement, à propos des personnages, ça va être une grande portraitiste aussi. Alors, c'est toujours, là, on devine quand même le sort de faire beaucoup de femmes, c'est quand même d'être quand même dans une sorte d'espace social étriqué. D'abord, l'espace de la maison, du jardin enfermé, et puis, c'est les proches. Il y a très peu de vie, elles n'ont pas le droit d'être dans les académies de peinture, toujours. Ce sont des formations, et quand elles ont des formations, ce sont par souvent des amis d'amis, ça peut être des peintres qui sont moins sexistes que les autres. Les hommes peintres, en général, vont reconnaître le talent, le génie de Berthe Morisot, de Marie Cassin, des amis proches, des complices, ils vont échanger avec elles. Donc, on va dire que c'est les institutions qui sont beaucoup plus conservatrices. Leur univers, c'est toujours l'univers familial. Les enfants, le jardin, la maison, la véranda, etc. Et puis la couture, la broderie, la lecture, etc. Mais là où c'est intéressant, et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que la part des femmes dans l'impressionnisme est essentielle, c'est quelqu'un comme Berthe Morisot et d'autres montrent que c'est un univers non seulement valide, mais c'est un contrepoison à un monde qui est par certains côtés détestable. Et c'est aussi quelque chose qui justifie une pratique picturale, justement, légère. Puisqu'on est dans des... Et donc, avec cette idée d'instant choisi, fragile, mais que l'on va en même temps suspendre et traiter par la lumière. Donc, ce qui était petit et léger va devenir essentiel. Et d'ailleurs, c'est encore maintenant, le succès des peintres impressionnistes montre qu'on est encore dans une soif de cette idée de légèreté, de lumière, mais ici, tenue... manifestée, on va dire, à bras-le-corps par certaines femmes artistes et certains artistes impressionnistes, mais qui vont adopter cette sensibilité, si vous voulez. Parce que la sensibilité, on va dire, des peintres masculins, etc., c'est pas ça. Ils étaient dans autre chose. Parce que vous avez quelqu'un comme Berthe Morisot, a un rôle, sans doute, là. C'est peut-être à revoir encore, y compris dans les échanges, donc il faudrait presque être un spécialiste érudit pour voir à quelle date, qui a peint quoi. Tu veux dire qu'il y avait quand même des échanges évidents. Mais le monde que décrit et que peint Morisot, c'est vraiment effectivement le monde de l'intimité, mais justement, ça lui donne cette espèce de liberté de touche. Paul Gobillard, c'est donc sa nièce, parce qu'elle a une sœur qui s'appelle Yves, dont le prénom c'est Yves, et puis son autre sœur Edma, qui va justement avoir cette fille Paul, qui elle-même sera une peintre plus tard, etc. Paul Gobillard, donc les portraits intimes et les portraits, ça, on les verra souvent, donc elle va en faire beaucoup. Et ici, d'ailleurs, elle fréquente aussi Renoir, c'est que Julie Manet, alors effectivement, comme après, il y a la famille Manet, Renoir, Degas, tous ces gens-là se connaissent, se fréquentent, fréquenteront y compris Stéphane Mallarmé, qui va même recueillir la fille de Eugène et de Berthe, etc. Saint-Moreau, sur Seine, hein, tout près de Fontainebleau, etc. Donc vous voyez, on est dans cette espèce aussi d'univers, des portraits, presque toujours des femmes, hein, dans des mondes intérieurs, avec quand même souvent ce, une dimension un peu mélancolique ici, et puis un grand travail, une grande liberté, on est proche du croquis, effectivement. Alors voilà quelques photos. Alors le chien, alors voilà, Jeannie et Paul Gobillard, Julie Manet, Geneviève Mallarmé, voilà, photo d'être garde-garde. Vous voyez, on est aussi dans un monde. Et là, Jeannie et Paul Gobillard, et Julie Manet, alors plus âgée, effectivement. Trois cousines, puisque on les voit ici. Jeannie et Paul Gobillard, donc les filles de Edma, hein, Julie et Geneviève Mallarmé. Alors vous, si vous voulez visiter le musée Stéphane Mallarmé, d'ailleurs je vous incite à y aller, c'est près de Fontainebleau à Saint-Moreau. Donc c'est près de chez moi, près de Barbizon. Vous pouvez, et en profiter aussi pour la tomberie, la réhabilitation inaugurée par Macron du musée Rosa Bonheur est intéressant, parce que c'est juste à côté, c'est à 6 ou 7 km. Donc vous pouvez vous faire un petit parcours Barbizon, musée Mallarmé et musée Rosa Bonheur qui est pas mal. On est dans ce là autour de Fontainebleau. Ça, c'est Fontainebleau. Et des petits musées. Alors, il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne. On est tranquille. Et c'est Rosa Bonheur, donc, qui est une grande peintre naturaliste. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais elle fait un peu le lien. Elle aussi, il y aurait tout un travail à faire sur Rosa Bonheur. J'en avais un peu parlé quand on avait vu Courbet. Hein, et effectivement, c'est une grande peintre naturaliste. Assez original, un peu célébré, même y compris par Buffalo Bill. Donc, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel aussi. Alors, de temps en temps, on a quand même quelques peintures où on voit Eugène et Julie, donc son mari et sa fille. Donc, le mari sont à une certaine distance, hein, mais toujours autour du thème de sa fille. Et avec, quand même, aussi, toujours. La même composition au début sur le tableau, c'est relativement flou aussi, surtout de concentration. On a presque l'impression de voir ici une ellipse, hein, une ellipse, et progressivement aller vers le flou. Donc, et d'ailleurs, on voit y compris dans le visage, hein, que le visage lui est traité autrement que les gestes. Hein, là. Et ça correspond aussi à la vision, hein, parce que les rayons centraux, les cellules du sang sont plus précises, et puis plus vous allez sur les côtés, plus c'est gestuel. Vous êtes sensible aux gestes. Puisqu'aux formes et aux couleurs, à la périphérie de votre vision. Donc vous avez, alors qu'on pouvait critiquer, certains critiquaient les impressionnistes comme des gens qui justement ne savaient pas voir, en fait ils montrent peut-être encore mieux une vision plus naturelle. C'est-à-dire que, parce que la vision naturelle n'est pas précise, par exemple, sur les contours. Donc vous avez là aussi des pistes qui seront remarquables, que plus tard les cubistes vont prendre en faisant des peintures carrément ovales. Il n'y a plus de cadre, on n'est plus dans la fenêtre, mais c'est assez clair chez elle. Alors, je ne vais pas vous. Alors, maintenant, je reviens un petit peu en arrière, parce que ce que je voulais montrer, c'était un peu le Bert Morisot, on va dire, très totalement épanoui dans son art, et même y compris reconnu. Mais quand on regarde ses peintures précédentes, il y a déjà des pistes remarquables. Là, elle est jeune, elle est en 73, elle a 32, 33 ans, hein, elle est née en 40 à peu près. Donc, si vous voulez, vous avez ici, hein, dans cette chasse aux papillons qui est assez géniale, le travail du noir et blanc sans modeler, des gestes picturaux qui sont exceptionnels, hein, dans cette façon de traiter, regardez, les pains en quelques touches, hein, y compris les herbes et la transparence, l'enfant endormi, donc c'est absolument génial, et le papillon ici, et y compris des sentiments comme ça, de fragilité, d'instant, de légèreté, qui sont absolument prodigieux, de justesse. Et puis on voit les leçons du Corot, sans doute, mais totalement assimilées et interprétées et intégrées. Donc elle a en fait déjà un style très jeune. Enfin, très jeune. C'est pour ça qu'elle est reconnue vite, hein, y compris celle-ci, à la chasse aux papillons encore, il y a ces deux versions, parce que celle-ci, avec on voit le filet à papillon, et on le voit aussi ici. Avec un questionnement sur le noir et blanc, qui sont plus dans le modelé, mais qui sont aussi traités comme des surfaces. Ça, on verra que c'est aussi une problématique impressionniste remarquable. Donc en fait, si vous voulez, quand on voit la véranda, etc., on se rend compte que, en fait, Morisot a très vite trouvé sa touche, son style, sa cohérence. y compris coloré. Regardez le rapport de complémentaire, hein, vert et rouge. Là encore, la leçon de Gros. Et puis la liberté de tout, pourrait-on dire. Ici aussi, cache-cache, que je trouve très très belle. Attendez. Alors là, qui est plus... Alors là, c'est intéressant, parce que vous voyez, on est dans la... les touches rouges, hein, les petites touches rouges dans l'univers, mais on est dans quelque chose qui intéressera aussi Manet. C'est pour ça qu'une complicité Manet-Morisot, c'est noir-blanc, gris-vert-brun. Qui sont des... On est loin, cette fois-ci, des couleurs bleu, jaune, rouge, ocre, etc. Violet, indigo. On est dans les couleurs au sens strict, l'autre jour, vous en avez parlé, monotones. Monotone, c'est-à-dire qu'il y a le noir et blanc, et puis ensuite le vert, le brun, le gris, qui sont quasiment de même tonalité, sans contraste. Mais, c'est là où c'est une question théorique. Alors, c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est intéressant. Puisque, dans cette peinture-là, comme Manet dans le balcon, on va reprendre les mêmes couleurs, comme dans l'Olympia, qui sont à peu près la même période, de ce point de vue-là, ils sont complices, puisque dans le balcon, Morisot pose, donc si vous voulez, mais on est dans les mêmes tons, vert, noir, blanc, gris, brun. Et bien, effectivement, au lieu d'avoir du modelé de la perspective, on est dans les surfaces. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la construction d'une profondeur par du modelé de la perspective, même s'il y a une perspective, on va dire, atmosphérique, mais qui n'est pas dessinée. On ne voit presque pas les maisons en perspective, on ne voit presque pas le chemin en perspective, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne de fuite, on a surtout des surfaces. Et le blanc est presque pas modelé, et le noir ici sert de composition pour faire des surfaces. Enfin, juste regardez dans les fenêtres derrière, sur les surfaces, etc. Il n'y a pas de modelé, mais il y a une lumière. La lumière va venir des rapports de surface, mais non plus de l'imitation du modelé de l'ombre. Alors, c'est quelque chose qui est intuitivement travaillé, mais en plus qui s'accompagne, puisqu'on traite de surface, et c'est là où c'est logique, puisqu'on traite de surface, et bien, le geste va être lisible aussi sur la surface. C'est-à-dire que balayer la surface, au sens strict, le pinceau c'est un balai, balayer la surface, c'est une façon de montrer la surface. C'est une façon de la révéler, non plus de la cacher, comme faisaient les autres peintres avec le modelé, ils faisaient oublier la surface, et bien vous avez ici des artistes qui vont montrer la surface. C'est pour ça d'ailleurs que paradoxalement, des gens comme Manet ou Berthe Morisot, etc., au début sont considérés comme des réalistes. Parce qu'il y a des on n'est pas réaliste, on n'est pas illusionniste, mais on est réaliste, parce qu'on montre la réalité de la peinture, on montre la réalité de la surface. On montre que la peinture, bah, c'est de la boue colorée, c'est de la pâte. La peinture, elle est faite avec un geste. Donc si vous voulez, vous avez quelque chose ici qui est remarquable du point de vue conceptuel, c'est qu'on quitte vraiment l'illusion pour aller dans une réalité phénoménale, mais non plus dans une illusion du regard, etc. Et ça, c'est très clair d'ailleurs là, parce que vous n'avez plus du tout d'illusion. Par contre, vous avez une présence, et cette réalité de la peinture, elle est capable en même temps de parler de la profondeur, de la lumière, etc. Alors c'est valable, en fait, toutes ces œuvres ici de ces années 70 sont avant l'irruption de la couleur. Elles sont souvent dans ces espèces de... Et justement, les couleurs trop vives sont au départ considérées comme peut-être trop séduisantes. Donc il y a un côté apparemment austère, presque de recherche, de travailler des couleurs qui sont monotones. Vert, brun, gris, marron, hein. En automne, bah, monotone. Hein. Et le blanc et le noir qui vont faire une sorte de tension. Et c'est assez clair. Donc, alors par la suite, c'est là où les artistes comme Morisot et Manet vont arriver vers la couleur, c'est que plus ils travaillent la surface, ils vont se rendre compte que la couleur est aussi une lumière. La couleur ne sera plus uniquement narrative, mais sera aussi porteuse d'une lumière, même en tant que surface. Alors, quelque chose aussi qui va être... Alors ça, j'adore celle-ci. Jour d'été 1879, ben c'est la surface de l'eau. C'est l'eau aussi. Alors là, on est dans un chef-d'œuvre prodigieux, 79. Alors, évidemment, il n'est pas la seule, mais Monet, Manet, travaille l'eau, etc. On trouve quand même ces personnages, alors je passe sur la virtuosité des robes, y compris du regard en quelques touches, la bouche entrouverte, etc., la lumière sur les lèvres, et puis en même temps, une espèce de fusion dans ce moment. Et puis la surface de l'eau, ben, on peut dire que c'est la quintessence de la vibration d'une surface. C'est une surface lumineuse, fractionnant toutes les touches et toute la lumière, parce que ça n'a pas bougé. C'est aussi un instant, puisque c'est toujours vibrant. Donc, vous voyez, la surface de l'eau, c'est vraiment le thème. C'est comme le jardin, c'est quelque chose absolument. Et elle le saisit ici avec prodigieuse virtuosité, avec une composition décalée, notamment avec cette espèce de barque que l'on voit de côté. Et puis, alors, les touches, là, qui sont parfaitement repérables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas confondre cette peinture de Morisot avec n'importe quelle peinture. C'est-à-dire qu'elle a vraiment, à la fois, elle va en venir une espèce de canon des recherches impressionnistes, mais elle a vraiment sa touche, son style, y compris les personnages, et puis presque toujours ses figures féminines. Là, quand je vous parlais d'instant et de fragilité, ben, les bateaux, on ne sait pas très bien où ils commencent, où ils finissent, fragiles sur l'eau aussi, un instant suspendu et flottant, donc flottant dans l'espace, flottant sur l'eau, flottant dans la lumière, flottant dans le temps, etc. Et le flou, et aussi, on va dire, performatif. C'est-à-dire le fait que les choses ne sont pas définies, finies, achevées, eh bien, ça s'explique aussi dans cette touche remarquable. Et alors là, aussi, les couleurs, ce bleu et ce jaune, alors, elle est passée, vous voyez, du noir et blanc en gris, là, tout d'un coup, elle va franchir les surfaces colorées. Alors ça, c'est tout bête, hein, mais Manet, Monet ensuite, et puis, enfin, ensuite avec elle, et puis, évidemment, après, Gauguin, Matisse, les surfaces colorées. C'est vraiment des gens comme Hubert Morisot qui vont introduire cette espèce de couleur pure, hein, qui ne sont plus du tout assombris par le noir ou éclairés par le blanc, mais qui sont directs. Et puis alors là, l'audace et la franchise des touches, c'est-à-dire savoir, en un coup de pinceau, la bonne touche au bon moment, c'est aussi presque, là, ça vous semble bien, c'est presque zen. Et où, je sais pas, c'est presque le genre des arts martiaux, c'est-à-dire que se concentrer pour tac, agir au moment. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais aiment beaucoup les peintres impressionnistes, parce que tac, ils vont être la touche exactement au bon endroit. Et inversement, on verra, il y a aussi d'autres liens qui sont très forts avec Marie Cassatt et compagnie, et sur les Japonais et les impressionnistes, on pourrait croire que ça ne se ressemble pas du tout, mais pourtant il y a une connivence qui sera assez claire. Alors, celle-ci, alors le thème de l'eau, hein, on le voit ici. Bon, ça, ce sont donc 1884. Vous voyez, elle a traité souvent avec, là aussi, comme je disais, hein, surface pure, y compris des rapports colorés très très justes avec ces gris bleu-vert, là, et l'ocre. Et puis là, les bords de Seine, avec une franchise de touche et une justesse des lumières qui est remarquable. Alors, je continue un petit peu. Alors, c'est là où, c'était en cherchant, je ne sais pas du tout, mais flottant de marine et jeune en plus. Là, c'est en 75, donc elle a 35 ans ou 34 ans. Hein, et ses marines et ses ports sont vraiment... Alors là, elle est peu connue, hein, elle a quelques amis, mais alors c'est d'une justesse. Alors là, on est dans le noir et blanc, la lumière pure, la structure et une liberté. Alors ce sont presque des carnets de croquis. Hein, c'est vraiment... Et alors là, vous voyez que le noir et blanc, avant la couleur... On va dire que sa pensée lumineuse, ce sera d'abord la question du noir et blanc. Et alors il y en a d'autres, hein, 1870, celle-ci qui est absolument sublime, alors là de liberté, parce qu'on est vraiment dans le croquis et la peinture structurée. Puis, alors, je ne sais pas si elle influencera, mais elle aurait pu, si elle avait été plus connue, influencer y compris les cubistes, elle travaille compris non pas par le signe. C'est-à-dire qu'on identifie très vite quelque chose comme un bateau, comme une voile, alors qu'il est à peine défini. C'est-à-dire qu'il y a aussi le contexte fait que la touche devient aussi parfois un signe. C'est-à-dire que d'un coup, ceci va être lu comme un personnage sur un bateau, parce que le reste est sans doute ses traces ici comme des avirons, là aussi, alors que si vous voulez, si vous regardez de très près, il n'y a rien qui dit le personnage. Très près. Même de près. Mais cette idée du signe, c'est qu'on n'est plus dans le dessin et l'imitation, mais une multitude de signes qui, ensemble, constituent un paysage et une scène. C'est ce que les cubistes vont réinventer plus tard, c'est cette idée que, justement, on n'est pas obligé de tout dire, on va suggérer par... le signe, c'est la partie la plus prégnante, la plus signifiante, au sens strict, la trace qui sera la plus signifiante d'une réalité. Mais si vous regardez là, alors... Pour savoir repérer dans l'espace, c'est ce que je disais, l'idée analytique et même synthétique, pour savoir repérer ce qui fait signe, il faut avoir un œil exercé et savoir retenir. Parce que si on décrit tout, ben on ne choisit pas. Savoir choisir la forme juste, la couleur juste, le geste juste. Et là, vous avez, on a parlé de Nicolas de Staël, s'il vous plaît, là, on est dans. Alors là, j'ai la chance d'avoir une peinture remarquablement reproduite, mais ça veut dire aussi qu'elle a une palette et des pinceaux extrêmement variés. Elle jongle avec virtuosité sur une palette très très riche, comme on le voit ici. On continue Morisot, alors voilà encore, bateau en construction, 1874, etc. Donc quelques marines. Alors, elle a fait aussi quelques paysages avant d'être dans le monde du jardin. Il y a quelques paysages qui sont, comme on voit ici, des marines sur le bord Fécamp, Normandie. On verra aussi le port de l'Orient, etc., avec des zones assez comme ça, horizontales. Alors, la surface de la mer, on verra plutôt plus tard, c'est intéressant aussi. Le ciel et la mer sont des surfaces. Alors, cette peinture, le port de l'Orient, c'est une des premières qu'elle ait exposée. Et c'est là où on a dit d'elle qu'elle était encore influencée par Corot, qu'elle était à la manière de Corot. Donc, vous voyez, on a vraiment le passage de l'un à l'autre. Hein, comment est-ce que Morisot prend l'héritage Corot et ensuite le fait évoluer avec sa sensibilité, son univers, qui sont ici remarquables, avec une grande liberté de touche, et puis alors les reflets sur l'eau qui sont remarquables, mais qui sont colorés en couleurs complémentaires, ocre et bleu. Donc il y a aussi un sens coloré. Et alors ça, c'est une vue de Paris, vue du Trocadéro, enfin de ce qui est l'actuel Trocadéro, les hauteurs, le noir et blanc, le paysage. Alors là, j'ai des pixels dégueulasses, mais on voit, je crois que c'est les Invalides, ou alors le, je sais pas. Et ça, c'est le pont.
C'est le pont de la Tour Eiffel.
Voilà, c'est ça. C'est ça, pont d'Iéna. Mais oui, en fait, c'est bien Trocadéro, donc ben, on est avant la construction de la Tour Eiffel. Donc, alors, donc elle a aussi, en fait quand on voit, quand elle travaille sur le jardin, c'est une artiste qui a travaillé aussi le paysage, qui a travaillé les grandes ouvertures, etc. Donc on voit aussi que finalement, dans son choix de se resserrer sur le jardin, le paysage aussi, c'est aussi une évolution, hein, elle n'est pas, c'est pas du tout, donc elle veut aussi manifester ce moment-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'elle a eu sa fille? Donc elle est un petit peu cantonnée, alors parce que beaucoup de femmes arrêtaient de peindre quand elles avaient des enfants, c'est le cas de sa sœur, c'est le cas de beaucoup d'artistes, femmes, les hommes, déveillaient les tâches. Mais donc elle continuait à peindre. Donc si vous voulez, c'est peut-être aussi le fait de peindre, de continuer à peindre sa fille dans le monde intérieur, c'est peut-être aussi un acte de résistance vitale pour elle, de continuer à peindre à son univers à elle, même si elle évoluait. Mais quand elle est plus jeune, effectivement, on voit qu'elle est quand même inconnue. Sorties, les paysages, les grands espaces, comme on le voit ici, qui sont toujours traités avec une touche absolument géniale. Alors, là encore, hein, alors ensuite il y a quelques synthèses assez rares où on va retrouver bon, plus tard dans sa vie, c'est une sorte de synthèse entre le paysage ouvert, on va dire, et les activités humaines, les jeux d'enfants ici, les personnes au champ, etc. Je vais arrêter là, puis on continue à pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et la meule de foin, donc c'est le 11 novembre. C'est pour ça.
Oui. Bah oui.